Ludo Live, l'émission en live depuis Ludovia.
Éducation.
Numérique.
Actu.
Outils. Expérimentation.
Productivité.
Interaction. Innovation.
Bonsoir à tous, Ludo Live 2. Je vais faire un petit réglage parce que je suis un peu fort. Ouais, non, c'est bon. Ludo Live 2, donc on est jeudi, deuxième jour de Ludo Live, où vous allez sûrement entendre un peu de bruit tout à l'heure parce qu'il y aura des remises de prix. Je préfère le prévenir. Ludovia très riche, en tout cas, c'est deux journées, c'est deux jours et demi. Seb, ce soir on est trois à discuter avec plein d'invités. On a une chroniqueuse d'un soir qui va se présenter. Seb, je te laisse la parole.
Merci, bonsoir à tous. Alors oui, on a repêché quelqu'un ce soir. Alors, histoire qu'on arrête de nous reprocher de pas avoir assez de voix féminine. En plus, elle a une jolie voix. Vous l'avez déjà entendue hier. Peut-être qu'elle sera plus en forme aujourd'hui encore qu'hier. On va la laisser se présenter pour ce soir.
Alors, une jolie voix cassée, effectivement, tout le monde l'entend. Bon, bonjour tout le monde, donc c'est Séverine. Effectivement, on m'a repêchée hier et voilà, ravie, d'être avec vous ce soir.
Ravi aussi de t'accueillir, et c'est un petit peu ça l'esprit de Ludovia. On ramasse les gens que l'on trouve intéressants, même si ramasser, c'est pas exactement le terme, je vous l'accorde. Alors, ce soir, on risque d'avoir des gens qui vont arriver pendant l'émission, mais on en a déjà quatre, une belle équipe, ma foi. On va les laisser tranquillement se présenter avec un petit tour de table pour commencer. Et on va commencer par mon homonyme, qui est juste à mes côtés. À toi, Sébastien.
Prends bien le micro, mettez bien
Bonsoir à vous, merci de l'invitation. Donc Sébastien Franc, je suis professeur d'anglais, c'est mon troisième Ludovia ou quatrième, je sais plus, j'arrive plus à compter quoi. Donc voilà.
Bonsoir à tous. Virginie Gorgone, je suis directrice d'école d'application à Nice et formatrice.
Et c'est son
premier Ludovia.
Bonjour à tous, c'est Frédéric Pinchon. Moi, je suis enseignant en technologie collège et je travaille également à la DNE. Et c'est mon septième Ludovia.
Et bonsoir, Romain Bourdet-Chapuzot. Alors, moi, je suis prof de physique chimie au collège Château-Double à Aix-en-Provence. C'est mon troisième Ludovia, mon deuxième pour de vrai. Et moi, j'étais ramassé au bar hier soir.
Merci pour les détails, Romain. Donc, petit tour de table, on vous a dit, on aura des invités en plus tout à l'heure. On aura un merveilleux fond musical apparemment qui se prépare. Et par qui commence-t-on ?
Celui qui se présente en premier ou là ?
Voilà, ils sont en train de se battre pour prendre le micro, mesdames et messieurs. Ils sont en train de se battre. Et on va demander à Virginie une simple question pour commencer. Ton premier Ludovia, je ne dirais pas qui est-ce qui a insisté pour que tu viennes, même s'il n'a pas fallu beaucoup te pousser pour que ce soit le cas. Qu'est-ce que tu en as pensé ?
Je reviens l'année prochaine.
Bon, d'accord.
Voilà.
Et pourquoi ? Qu'est-ce que tu y as trouvé ?
Qu'est-ce que j'ai trouvé ? Plein de belles rencontres, surtout. Voilà.
Et Sébastien, toi, tu es là pour quoi ?
Alors, moi, je suis là pour revoir tous les potes que je ne peux pas voir dans l'année parce que je suis dans le nord de la France, donc c'est compliqué pour se voir. Je viens pour me rebooster pour la rentrée. Et puis, en 4 ans, j'ai vu l'évolution du Ludovia. Et c'est vrai, je trouve que, en termes de formation, c'est intéressant. Mais je trouve ça plus intéressant en termes de relier les gens, de créer des liens et des échanges. Et c'est vraiment sur les choses sur lesquelles je suis en ce moment, sur créer des espaces où les gens peuvent échanger.
Tu veux dire, tu voudrais relier des espaces comme une espèce de patchwork de personnes ?
C'est ça, en gros, c'est ça.
Alors, patchwork, c'est de l'anglais, je crois.
Oui, c'est de l'anglais et ça veut dire patchwork, en fait, en français. Non, c'est une envie que j'avais depuis longtemps de créer un espace de travail avec des gens qui viennent de tous les degrés, pour casser les barrières entre le premier degré maternel jusqu'au supérieur et la formation. Je voulais casser les barrières géographiques des académies et casser les barrières des disciplines. Du coup, c'est un... Alors, j'ai du mal à le définir et je trouve que c'est bien parce que c'est l'esprit patchwork. Mais pour moi, en tout cas, la définition que j'en ai, c'est un espace où on peut venir trouver des réponses à des questions qu'on a pédagogiques. On peut poser des questions, échanger de manière conviviale et professionnelle dans la bienveillance. Ça fait 4 mois qu'on a lancé ça. On commence à avoir à peu près 140 personnes qui sont sur l'espace à échanger. On a un site. Donc voilà, donc c'est vraiment un système de retour sur des réflexions pédagogiques. C'est-à-dire qu'on échange sur du pédagogique, sur des invariants qu'on peut trouver et on se rend compte que des projets de maternelle, par exemple, peuvent donner des idées à des profs de LP et des profs de LP peuvent donner des idées à des collègues du premier degré, c'est vraiment intéressant. Ça mélange plein de pratiques pédagogiques aussi qui permettent de se poser des questions et de se questionner pour être toujours dans je trouve, un développement professionnel. Et voilà, en gros.
Moi qui te connais depuis longtemps, Seb, je sais que tu cherches à créer quelque chose comme ça depuis de nombreuses années. Est-ce qu'enfin, tu as ton bébé? Est-ce que tu es content? Est-ce que tu as réussi à faire ce que tu voulais faire?
Alors, j'ai pas envie de dire ça parce que justement, je suis dans la recherche. Alors, je sais pas si je peux parler de bébé parce que si je dis ça, Flanders Lane, il va pleurer et ça va être compliqué. Mais en tout cas, j'ai trouvé, je pense, quelque chose que je recherchais, ça c'est sûr. Parce que j'ai beaucoup travaillé moi personnellement sur la résilience parce que c'était vraiment des questions que j'avais moi de ma posture et de ma positionnement dans mon travail et je sais que Patchwork fait partie des réponses que je cherche depuis longtemps sur justement se dire que finalement c'est un petit bout de chacun qui permet de créer l'ensemble
et... C'est beau.
Je vais t'embêter un peu avec ma question, mais qu'est-ce qui change par rapport aux réseaux sociaux, par exemple? On échange déjà beaucoup, hein, à Ludovia, sur Twitter, énormément.
Alors, ce qui change sur les réseaux sociaux, c'est que sur Twitter, ça va très très vite.
C'est oui, vite on peut faire des groupes aussi, voilà.
Tu vois. Alors, techniquement, si je rentre techniquement dans les choses, j'avais commencé à faire des DM sur Twitter, ouais. Mais le problème des DM de Twitter, c'est que dès qu'on rajoute des nouvelles personnes, tout ce qui a été dit avant, on doit le remettre. Alors que là, on a un outil qui s'appelle Slack, d'espace de travail, où on peut créer des chaînes, déposer des documents, échanger des documents, et on perd rien, en fait, en termes de
d'accord.
Documents.
Okay.
Et alors, l'autre chose, c'est que du coup, en créant cet espace de travail-là, pour ceux qui sont vraiment dans l'investissement cœur, il n'y a pas forcément de publicité sur Twitter, sur le fil. C'est un espace aussi que j'ai voulu avec de 23h à 7h, je coupe les notifications, ce qui fait que le droit à la déconnexion, il est important.
Il existe,
aussi.
Hein.
Ça fait partie de l'esprit aussi où je pense où on mélange le professionnel et le convivial pour pas perdre en fait l'humain, parce que c'est quand même l'humain qui fait le pro en fait. C'est pas le pro qui définit l'humain, c'est l'humain qui va faire évoluer le pro avec une coloration évolutive.
Et qui c'est qui va faire vivre ces espaces? Parce que c'est avec des thèmes, hein, t'as plusieurs thèmes, plusieurs thématiques.
Oui, alors après c'est tout.
Comment tu veux faire vivre ça, quoi?
J'aime bien l'horizontalité, c'est-à-dire qu'on est 9 qui m'aident sur le... Ouais, Séverine, c'est là que tu dis que tu me connais depuis longtemps, c'est ça? Non, en fait, c'est le côté où on est 9 à vraiment piloter un peu, parce que ce qui était important, c'était pas qu'il y ait une personne qui fasse tout, et puis surtout, c'était l'aspect non chronophage des choses.
Gérable, oui, bien sûr.
Et là, on est sur 15 groupes de travail, en gros, où il y a des gens qui se sont un peu... qui sortent du lot et qui se sont... que j'ai pas poussé trop, mais qui ont proposé d'animer les groupes, ce qui fait que chaque groupe vit sa vie indépendante avec la coloration de l'animateur. Et après, c'est une fois qu'il y a des contributions qui se font, on remet tout sur le site de manière à ce qu'on s'y retrouve.
Il me semble qu'il y a pas mal de chaînes dédiées, je crois, à la formation. Est-ce que tu parlerais d'auto-formation? J'aimerais que tu développes un peu ce pan-là par rapport à Patchwork.
Quand tu dis auto-formation, c'est-à-dire formation entre les pairs?
C'est ça.
Ouais.
Alors, il y a une chaîne qui s'appelle sur les formateurs où ce qui m'intéressait, c'était aussi un peu des choses que je fais, c'est sur justement repenser la formation. Et on est beaucoup formateurs, mais je pense qu'on a été formatés. Et les collègues qui viennent en formation sont aussi formatés. Et peut-être que si on arrive à réfléchir sur la formation, c'est ce qu'on appelle l'andragogie, je crois, parce que j'apprends aussi à Ludovia des termes.
On apprend les mots, ouais.
Voilà. Je trouvais intéressant aussi qu'on mélange les regards de formation, parce que on fait pas les formations de la même manière, et comme je pense qu'il y a un isomorphisme entre la classe et la formation, en changeant en fait le paradigme de la manière de former, les collègues en retournant en classe auront d'autres schémas en fait et d'autres manières de former.
Et Virginie, toi qui es directrice d'école d'application, donc qui es au cœur quand même du système de formation des enseignants, ça y est, c'est parti pour la musique.
Ça y est, c'est la musique. Ouais.
Qu'est-ce que tu en penses de l'initiative de Sébastien?
Bah, je sais pas, il a pas voulu m'intégrer dans un groupe.
Justement, comment on fait pour intégrer le patchwork?
J'ai tout fait pour intégrer dans son groupe.
Oui, mais est-ce que tu as été au terme avec Sébastien parce que ça débloque des choses? Non. Mais il n'y a pas de souci. Non, mais sincèrement, dans l'esprit de l'initiative, c'est-à-dire d'avoir cette espèce de formation entre pairs et abandonner un peu la verticalité que institutionnellement on connaît tellement bien. Je suis sûr que ça te ravit.
Oui, il faut abandonner la verticalité. Donc, je partage complètement son point de vue. Hein. Il faut qu'on favorise ces groupes. Alors, c'est pas un groupe de discussion, mais...
Un groupe de réflexion.
Il est en train de le faire en direct, là.
Vas-y, crée le groupe, s'il te plaît. Voilà. Tiens, voilà.
Bon, comment fait-on sinon,
vas-y,
sinon,
explique-nous comment on fait pour rejoindre ton groupe.
Rejoindre, ouais.
Alors, pour faire simple, il y a plusieurs niveaux d'implication. Il y a de nous suivre le compte sur Twitter pour voir la veille numérique.
Donne-nous le compte, ouais.
Alors, c'est @ptch.
Ok, ce sera
WRKFR.
On va le mettre dans les notes de l'émission.
Ouais.
C'est parce que les voyelles, c'est des arrobas et des O suédois. D'accord. Donc c'est voilà. Donc il y a la veille numérique, on peut rentrer en contact. Après, il y a un site qui s'appelle patchworkfr.com par WordPress qu'on a créé, qui a été créé par un des membres de Patchwork qui s'appelle Nicolas Gobb, qui est un prof de SVT et qui justement s'occupe de faire vivre le site. Où là, on peut suivre le site et s'abonner. Du coup, en s'abonnant, on gagne un badge de soutien. Et c'est le premier badge aussi parce qu'il y a tout un système d'open badge aussi, ouais, de motivation. Ouais. Et après, il y a, pour ceux qui sont intéressés, il y a l'inscription dans le Slack, espace de travail, ou avec un mail, je peux intégrer au Slack. Et après, dans le Slack, il y a des ouvertures de chaîne, il y a des présentations à faire et des documents.
C'est clair.
Du coup, Virginie, je la rajouterai.
Oui, elle te l'a bien dit, on est témoin, donc tu ne vas plus pouvoir...
Donc, pour répondre à ta question, c'est pas la réussite que je veux pour l'instant, donc il y a encore à travailler, c'est ça qui est bien.
Oui, on te connaît, de toute façon, je sens que ça ne sera une réussite que dans un petit moment, pour que ça convienne.
Ben, après, ça dépend ce qu'on attend. Moi, je n'ai pas fait ça pour réussir quelque chose, j'ai fait ça pour mettre des gens en lien et puis pour aussi trouver des réponses à des questionnements que j'avais aussi personnels. Et en partageant.
Très bien.
Virginie.
Je me retourne vers Frédéric.
Bonjour.
Bon, je suis content que tu sois venu, en tout cas pour présenter Étincelle.
Oui.
Ouais.
Venir à Ludovia, c'est d'abord profiter du foisonnement des usages et des ressources et des gens, hein, un patchwork. Et oui, je suis venu pour présenter la plateforme Étincelle. Alors, la plateforme Étincelle, c'est une plateforme qui a pour but de diffuser la culture industrielle et technique à l'école. Et j'allais dire, on a peut-être une idée un peu difficile à combattre, c'est que cette plateforme, elle n'est pas uniquement pour l'enseignement professionnel. Elle est pour l'enseignement professionnel, mais elle a des destinations de tous, donc de toutes les disciplines, l'enseignement général également. Et on a l'objectif aussi de toucher... un vaste panel. On va du cycle 3 jusque presque le BTS. Voilà.
D'accord.
Donc c'est des ressources qui sont développées par l'industrie ou co-développées par l'industrie avec des enseignants, donc des ressources numériques didactisées, et qui sont mises à disposition sur une plateforme développée par Canopé et par le ministère de l'Éducation nationale. Et la grande valeur ajoutée par rapport à d'autres plateformes ou d'autres outils, c'est qu'on a des séquences pédagogiques qui les accompagnent, qui les mettent en
des
musique.
Des séquences clés en main, quoi.
Voilà.
C'est ça ? D'accord.
Voilà.
Et développées par qui ? Alors, par Canopé
les séquences, elles sont développées par des groupes d'auteurs. Fois que la ressource a été développée, il y a des groupes d'auteurs qui travaillent dessus. Et si vous voulez, ça a plusieurs buts. Le premier, c'est un peu de casser les idées reçues sur certains secteurs d'activité, sur le monde de l'industrie. Il y a la parité, par exemple. Il y a des secteurs industriels ou des secteurs qui ne sont pas du tout occupés par la gente féminine, où il y a des idées des fausses idées, ouais, des idées reçues. Et puis, c'est peut-être aussi un petit peu travailler les projets personnels des élèves en amont, bien avant le lycée, et de montrer ce que c'est à travers des activités.
On retrouve donc quel type de ressources, vidéo, animation?
Ça va de la ressource brute, donc ça peut être du cahier des charges, du plan, de la maquette numérique, jusqu'à de la ressource didactisée, des jeux sérieux, de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Donc il y a de toutes sortes, des webdocs.
Elle a combien de temps cette plateforme-là?
Alors elle a été ouverte au mois de mars, ça fait presque 2 ans et demi, 3 ans qu'elle est préparée, mais elle a été ouverte au mois de mars. Et actuellement on a à peu près 17 partenaires industriels, avec des grands secteurs industriels, et on a environ ressources et séquences à 300 ressources disponibles sur la plateforme actuelle.
Est-ce que les ressources touchent tous les cycles, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu as parlé du cycle 3?
Alors, pour le moment, c'est essentiellement du cycle 4, mais on a vocation. Il y a un peu de cycle 3, il y a un peu de post-bac, mais effectivement, pour le moment, c'est plutôt du cycle 4. Oui. Mais on a vocation à s'ouvrir à tous les niveaux.
D'accord.
Très bien. Merci beaucoup, en tout cas. Et donc, pour la retrouver, justement,
Il faut aller. C'est sur le réseau Canopé, hein, donc réseau Canopé / étincelle. Alors, étincelle, c'est EL, c'est pas 2LE. Et slogan qui va avec, c'est quand l'industrie.
Il y a un compte à créer, quelque chose ou...
Il faut avoir juste un compte Canopé. C'est ouvert au kiosque Canopé. Et donc, c'est accessible à tous, hein, que ce soit les CFA, que ce soit l'enseignement professionnel.
Ah oui.
Il suffit d'avoir juste une adresse professionnelle.
Merci.
On va passer la parole à Romain qui attend très très tranquillement. Et c'est dommage, mesdames et messieurs, qu'on n'ait pas réussi à configurer la vidéo parce qu'il y a un échange là devant nos yeux qui est assez impressionnant. Romain, pourquoi es-tu là?
Alors moi je suis là parce que j'ai présenté un export camp ce matin. Donc ça c'est une première raison. Une deuxième raison c'est parce que je suis aussi dans l'association Inversons la classe et donc j'intervenais sous le chapiteau. Puis la troisième raison c'est comme Sébastien, c'est que c'est... Une super occasion de revoir les copains qu'on voit une fois par an et puis aussi de choper plein de super idées pour la rentrée. Alors, l'Export Camp, si tu veux, moi je suis prof de physique chimie et il y a 2-3 ans, je commençais à changer de manière de fonctionner et je travaille avec une collègue d'SVT qui s'appelle Fanny Groer. Et en gros, ce matin, c'était de montrer comment on avait changé notre manière de fonctionner. Et du coup, comme on avait aussi changé l'agencement de notre salle, qui est pourtant la salle la plus figée du collège, quoi. C'est la salle de sciences, avec les tables qui sont bien vissées par terre, quoi.
Alors moi, écoute, quand tu m'as présenté le projet, je me suis dit, c'est peut-être parmi les profs du collège les moins faciles à mobiliser pour réussir à changer sa salle. Parce que moi, j'ai le modèle, j'ai l'idée dans la tête, c'est des salles avec les belles paillasses, avec le robinet pour les salles, que ce soit SVT ou physique, hein, pour moi c'est des trucs c'est posé, ouais, ça bouge plus.
Ouais, ah mais c'est ça, c'est mais non cliché, mais hein. Alors si tu veux le truc c'était de se dire comment je peux changer ça sans faire de travaux, puisque forcément on n'avait pas les moyens de faire les travaux, et sans mettre non plus d'argent, quoi. C'est-à-dire que le but, c'est vraiment de faire de la bidouille. Et donc, ça a été de faire en sorte que déjà, au niveau du bruit, on n'ait pas de soucis. Donc, tu fais quoi? Tu vas chercher dans le premier degré, puis tu mets des balles de tennis sous tes tabourets. Ils ont tout ça, et au collège, personne là, sauf qu'en fait, ça marche super bien. Alors, tu te souviens peut-être de tes super paillasses avec un petit rebord, là, qui empêche le tube à essayer de tomber, même s'il y a 3 autres côtés sur la table. Ouais, mais ces rebords, un jour, tu vas avec ta dévisseuse au collège, puis tu les enlèves. Comme ça, du coup, tu peux travailler à 4 sur la table. Et puis, au début, tu dis, ce serait bien quand même que les gamins ils puissent travailler avec un tableau et tout, sauf que tu n'as pas de tableau, puis ton intendant, il ne va pas te les acheter, les tableaux. Et donc, du coup, tu prends les Velleda, puis tu écris sur les tables. Et donc, du coup, tu as des espèces de tableaux comme ça. Et ouais, alors, on le voit pas, il a fait une grimace. Sauf que les tables, elles n'avaient jamais été aussi propres. Parce que du coup, tu as le petit psy-psy qui va bien, la lingette microfibre. Et les gamins, à la fin, ils nettoyaient la table. Il y en avait même qui se battaient pour pouvoir nettoyer les tables. Et puis ensuite, tu attends un petit peu, il se passe une année. Tu vas voir l'agent technique, tu lui dis, écoute, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui change son tableau, tu me le mets de côté. Et puis l'année dernière, à la pré-rentrée, la pré-rentrée, tu fais quoi? Au lieu de faire de la réunion, avec l'agent technique, tu installes des tableaux dans la salle. Enfin voilà, c'est plein de trucs comme ça où, mis bout à bout, finalement, tu arrives à faire en sorte que ta manière de fonctionner, elle change en n'ayant mis aucun crédit. Sauf que, au niveau de la posture pour les élèves, ça change beaucoup, nous aussi. Et si tu veux, ça s'est fait en accompagnement de déjà un changement pédagogique, quoi. C'est de se dire que Le but, c'est pas de se dire, ouais, je vais avoir une super salle et c'est à partir du moment où j'aurai une super salle que je pourrai changer ma manière de fonctionner, mais plutôt de se dire, bah, tiens, j'ai changé de manière de fonctionner, mais j'ai mis en place des aménagements qui font en sorte que cette manière de fonctionner elle soit encore plus efficace ou au moins moins inefficace, quoi.
Aménagement, c'est, j'imagine, tableau au mur. Donc, effectivement, toute la... Toi, ta pédagogie a changé.
Et ça a changé. Alors, ça a changé. Au début, c'était juste de réfléchir sur ce que les élèves faisaient avec moi et sans moi et faire en sorte que le temps qu'ils passaient avec moi, il soit le plus efficace possible, quoi. Donc, la porte d'entrée, ça a été vraiment de se dire que le cours, bah, c'était pas utile que je le dicte avec eux en classe comme je le faisais avant. Et donc, de dire, bah, ça, on le fait, ils le font à la maison. Mais par contre, le deal, c'est que c'est le seul truc qu'ils feront à la maison. Je leur demanderai pas d'exercice, je leur demanderai pas de DM, de choses comme ça. Et du coup, on se dégage du temps pour faire d'autres choses. Donc, du coup, bah, tu mets le doigt un peu dans l'engrenage, quoi. Tu commences à faire du travail de groupe, tu commences à travailler sur les compétences, sur l'évaluation, le tutorat, enfin, voilà, plein de choses comme ça. Et les tableaux, si tu veux, c'était un peu de se dire, bah, ce qui serait sympa, c'est que les interactions qu'on prend rarement en compte, finalement, c'est les interactions élève-élève. C'est-à-dire qu'on est très souvent dans comment on interagit le prof par rapport à l'élève, l'élève par rapport au prof. Mais finalement, tout à l'heure, Seb, il parlait d'horizontalité. Dans la classe, ce n'est pas forcément le premier truc qu'on va mettre en place. Et les tableaux, bah, c'est une manière de mettre en place ces échanges-là. Pourquoi ? Parce que c'est quand même plus simple de discuter debout autour d'un tableau plutôt qu'à côté d'un petit cahier, quoi. Et donc, pardon, je suis désolé. Tu vois, par exemple, moi, j'aime bien se faire la tournée des tableaux, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, tu les lances sur le tableau, alors, ils travaillent.
Il y a la tournée des barres maintenant.
Voilà, c'est ça. Et tu les mets à travailler. Puis après, hop, on passe de tableau en tableau avec un porte-parole qui va expliquer. Et du coup, c'est vrai que c'est des petits aménagements qui peuvent paraître presque bêtes, mais finalement, les choses, elles se font quand même relativement naturellement, quoi.
Et j'allais te demander tes inspirations pour tout ça. Évidemment, j'imagine Vincent Fayet, là. Moi, je pense immédiatement
alors,
à Vincent.
En fait, ouais, si tu veux, alors, c'est vrai que sur les aménagements, Vincent, avec les tableaux, la classe mutuelle, c'est vrai que ça a été une grosse inspiration. Moi, j'avais bien aimé aussi Bruno Verne qui avait présenté, c'était il y a oui, peut-être 2 ans, les espaces dans la classe. Et puis, la manière de fonctionner, moi, c'est vrai que c'est... Bon, comme je suis prof de physique-chimie, ça a été l'influence de Florence Raffin, quoi, qui est physique-chimie en lycée.
Justement, ce que tu dis pas, c'est que vous avez une salle commune avec, c'est ça, avec la collègue des...
Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, tu sais, les salles de sciences, généralement, t'es, par rapport à d'autres collègues dans un collège, t'es quand même plutôt à demeure, quoi. C'est-à-dire que comme c'est des salles spécialisées, tu restes dans ta salle. Donc nous, si tu veux, on a 3 salles de sciences pour 4 profs. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a, une salle, donc Fanny et moi. Alors forcément, on n'est pas tout le temps en cours ensemble. Hein. Ouais. Donc moi, ça m'arrive de vadrouiller après dans des salles de maths. Mais par contre, la particularité, c'est qu'on fait de la co-intervention. C'est-à-dire qu'au collège, souvent, on a des dédoublements. Et au lieu de dire, bah, tiens, moi je prends le groupe 1, Fanny elle prend le groupe 2, et puis au bout d'une heure on intervertit, on prend toute la classe pendant 2 heures, mais on fait de la co-intervention. Alors pas nécessairement des choses communes, tu vois, c'est-à-dire qu'on peut travailler chacun avec une moitié de classe sur de la physique ou de la SVT selon d'accord, nos disciplines. Et rien que de faire ça déjà, bah, tu te rends compte qu'il y a un climat dans la classe qui est différent. Et là le but c'est d'arriver maintenant à faire en sorte que quand on est sur des temps communs, on soit sur des activités communes, même si ça a déjà commencé parce qu'on a des programmes qui s'y prêtent, oui, quoi. Quand on travaille sur le système solaire en physique et en SVT, ça se regroupe beaucoup. Et tu vois, quand on a commencé à travailler comme ça, à un moment on s'est dit c'est bon, on a gagné. C'est que quand t'as un gamin qui commence à te dire ouais monsieur, est-ce que je peux aller regarder dans l'activité qu'on a fait en SVT avec Madame Grouer il y a 3 jours, tu te dis bah, c'est bon, on a gagné, quoi. Ah, ou quand il te demande à toi, moi je suis en physique, quand il me pose des questions sur la SVT, tu vois, en fait on devient finalement des interlocuteurs de science. Alors même si on a notre spécificité, tu vois, ouais. Mais les gamins finalement ils ont compris que les champs de physique et de SVT finalement ils sont super communs. Et quand tu regardes après, quand tu pars dans le supérieur, je veux dire, t'as de la biochimie, quand tu travailles sur d'analyse en géologie, tu vas faire des analyses physico-chimiques, etc. Tout ça c'est lié, quoi. Donc le but c'est un peu comme, enfin ça se retrouve avec Seb, etc., c'est de décloisonner, quoi, faire en sorte qu'effectivement les gamins ne soient pas dans ensemble, un truc très figé avec des cases, quoi.
Alors je vais te poser la même question que je t'avais posée en off, mais pourquoi il n'y a pas la techno qui est avec, quoi.
Alors la techno, il y a un truc. Alors la techno, elle est avec un peu en sixième, parce que souvent on a un enseignement de sciences et technologies. Oui. Okay. Et de toute façon, ces manières de fonctionner là, si tu veux, il y a de toute façon le facteur humain, quoi. Et là, la manière. Moi, j'ai commencé, si tu veux, tout seul. Et Fanny, en fait, elle a vu ce que je faisais. on a commencé à discuter un petit peu, on a vu que finalement déjà on s'entendait bien et qu'au niveau boulot ça matchait bien aussi, parce que forcément c'est des heures et des heures à passer ensemble, à travailler, et ben, si tu t'entends pas super bien, je parle pas niveau perso, mais si tu t'entends pas super bien au niveau professionnel, ben, en fait ça va plus devenir un frein de travailler avec quelqu'un que t'apporter une plus-value.
Et est-ce que, je dirais, dans un futur plus ou moins proche, tu te verrais collaborer avec d'autres profs encore pour faire des projets encore plus conséquents?
Ouais, ben, si tu veux, nous on rigole des fois en disant, en fait, on fait un peu une sorte de pays toute l'année, quoi. Les enseignements interdisciplinaires. Le truc là, pour le moment, si tu veux, c'est que là, ça fait 2 ans, en fait, on était beaucoup pris parce qu'on avait tout à construire. Et maintenant que ça fait 2 ans et qu'on est à peu près, on va dire, satisfait de ce qu'on a fait, maintenant on est plutôt dans l'amélioration de ce qu'on a fait et pas dans la construction. Donc effectivement, le but, ça va être d'apporter, tu vois, je parlais tout à l'heure des activités communes, mais effectivement de voir avec d'autres collègues pour pouvoir les intégrer aussi un petit peu dans le projet. Si tu veux, le truc aussi, c'est qu'à un moment, tu as l'aspect communication, c'est-à-dire que les collègues, toi, tu es tellement dans ton boulot que tu n'as pas forcément le temps d'expliquer ce que tu fais. Des fois, ils peuvent avoir des représentations fausses parce que tu vois, tu parles de classe inversée, de trucs comme ça. Donc, ils se disent « Ah non, moi, jamais je ferai ça ». Et quand tu leur parles de ce que tu fais, finalement, bah, ils se disent « Ah, peut-être que je pourrais me mettre dedans ». Et tu vois, tout à l'heure, on parlait avec des collègues. C'est vrai que physique SVT, bon, tu vois, on est un peu des disciplines, on va dire, jumelles, cousines. Donc, tu peux faire des ponts facilement. Mais il n'y a rien qui empêche de travailler avec un prof d'histoire, un prof de français, un prof de PS, un prof de maths. Donc, il y a plein de ponts qui peuvent se faire. C'est juste le problème, hein, c'est toujours le même, hein, c'est le temps, quoi. C'est d'arriver à trouver le temps pour se dire, allez les gars, maintenant on se met autour d'une table et puis on voit comment on peut construire ça. Mais c'est clair que ce serait super intéressant parce que pour les gamins, c'est vrai que au plus il y aura des gens qui fonctionneront un petit peu comme ça, au mieux ça passera. Nous, on voit déjà l'intérêt de travailler à deux. C'est que quand tu es au collège et que tu les as 1h30 par semaine, ben, quand tu es tout seul à faire ça 1h30, il se passe une semaine avant qu'ils te revoient, sauf qu'ils ont une semaine avec des modes de fonctionnement qui sont complètement différents. Et du coup, il y a un peu une remise en route de la machine qui peut être un petit peu chronophage. Et là, à deux, on gagne plus de temps.
Justement, tu parlais tout à l'heure de climat de classe. L'impact ensuite sur le climat d'établissement?
Alors, si tu veux, nous, on a de la chance dans le sens où ben, ça se passe bien avec les collègues, ça se passe bien avec l'administration. Et du coup, on est plus dans une démarche de se dire... Le but, c'est pas de faire de dupliquer le dispositif, quoi. C'est pas du tout ce qu'on recherche. Mais c'est vrai qu'on a nos collègues qui ont demandé, en fait, on est aussi formateur à la DAN sur les classes inversées, enfin, on va dire les dispositifs hybrides. Et les collègues ont demandé la formation, c'est-à-dire que nous, on n'a pas dit, ah les gars, faites-la, c'est super, parce que c'est nous qui la faisons. Et ils ont demandé après avoir vu ce qu'on faisait, ils ont demandé à pouvoir avoir cette formation-là. Et si tu veux, alors ça s'est fait cette année. Et du coup, ils ont commencé à voir, ah tiens, il y a peut-être des outils qu'on peut utiliser. Le seul truc, c'est que on n'a pas trouvé ça intéressant de se dire, bon, on fait la formation, puis après, les gars, on enchaîne direct. On s'est dit plutôt, on fait la formation, on laisse un peu le temps de digérer, et puis ensuite de relancer le truc, histoire de dire, bon, mais les gars, maintenant, voilà, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre ensemble? Mais c'est vrai que nous, on a des super retours des parents, des élèves, et forcément, il y a des collègues, ça les interpelle un peu. Ils se disent, bah, qu'est-ce qui se passe pour que finalement, il y ait des retours comme ça, quoi. Mais et tout ça, tu vois, c'est pas jalousie ou quoi, c'est vraiment avec la volonté d'essayer de faire en sorte que ça aille, enfin voilà, que ça prenne un peu, quoi.
Oh, c'est un joli projet. En fait, tu mets du avec vous deux professeurs de sciences différentes. Je vais y arriver.
Ça va commencer à être dur là.
Ouais. Là, je vais éviter de commencer à chanter, hein, pour faire concurrence. Mais en définitive, vous avez mis du lien, et parfois, alors je vais parler un peu pour ma paroisse, je vais demander à Virginie ce qu'elle en pense aussi, c'est quelque chose, un petit avantage que je trouve qu'on a de nous dans le primaire, à devoir s'occuper de toutes les matières, d'un truc, on a tendance naturellement à faire des liens. Qu'est-ce que tu en penses, Virginie? À faire, naturellement, on va essayer de relier les matières ensemble, on va essayer d'éviter de les isoler chacune dans leur coin.
Oui, tout à fait, après, là où je te rejoins... Romain ?
C'est Romain, oui.
Voilà. Moi, dans ma classe, je n'ai plus de classe cette année, mais jusqu'à l'an dernier, j'avais une classe, je travaillais en atelier et je retrouve exactement tout ce que tu disais au niveau du climat de classe, au niveau de l'entraide, du tutorat, avec l'autonomie aussi des élèves qui apprennent à gérer leurs apprentissages, à avancer, à construire eux-mêmes, en fait, leurs apprentissages avec l'aide de l'enseignant. Mais l'introduction du numérique, hein, on est à Ludovia. Ou que ça va être difficile.
Ça va être dur.
Ah, excusez-nous, messieurs, dames, il y a des zigotos autour de la table.
Non mais voilà, je rejoins et pourquoi pas un lien avec le secondaire en fait. J'ai eu essayé avec mes profs.
Mais tu sais, alors c'est intéressant ce que tu dis. Est-ce que par hasard, sur la plateforme que Seb a mis en place, on pourrait relier un prof, des profs du primaire, des profs du secondaire, de manière à ce que chacun apporte, ben, je sais pas, une compétence qu'on a chez le primaire, des idées, des envies du secondaire, et de manière à produire quelque chose.
En fait, c'est ça, en fait.
Oh
ah, il est bien tombé.
En fait, c'est ça parce que, par exemple, dans les contributions qu'on a, il y avait des défis qu'on se lance et il y avait un défi que je trouvais intéressant qui était repenser la réunion parents-professeurs où, en fait, les différents membres ont proposé leurs solutions ou leurs recherches. Et il y a aussi une contribution des groupes de travail aussi. On a travaillé sur le bien-être. Et là, on a une contribution avec des témoignages de la maternelle, du primaire, du secondaire et du lycée professionnel. Donc, on est vraiment sur des idées qui peuvent être proches et qui peuvent infuser. J'aime bien ce terme-là aussi. Je pense qu'il y a ce phénomène d'infusion qui... Puis comme c'est ludovieux, on peut dire même que c'est ludovieux, une infusion. Tiens, ça s'appelle verveine.
Moi,
du coup, je pense qu'il faudrait peut-être... Il y a un endroit où on dort qui s'appelle Étiole. On pourrait le recevoir. Les verveines, ça devrait... Je pense que ça pourrait être bien aussi, quoi.
Et justement, Romain, tout ton travail là, justement, là-dessus, on peut le retrouver en ligne, on peut le retrouver...
Alors, on peut le trouver alors sur Twitter avec mon nom, on le retrouve. Et puis, on a un site, voilà, Romain Bourdel, donc sur Twitter, on le retrouve. Et puis, on a un site avec Fanny qui s'appelle scienceactive.fr, donc science au pluriel, active au pluriel.fr attaché, sur lequel on retrouve notamment tout ce qui est plan de travail et puis aussi des projets dans lesquels on peut intervenir.
Merci. J'avais coupé. Justement, je reviens sur son premier Ludovia, parce que quand même, on va parler un peu de coup de cœur. Quel était ton... Si je te demande tes trois coups de cœur un petit peu sur ces deux jours et demi de Ludovia, trois jours de Ludovia. Difficile, là, je te prends un peu au...
N'oublie pas de citer Patchwork.
La rencontre avec Patchwork dès la première soirée, l'auberge espagnole, voilà, que nous venons enfin de concrétiser. Ça y est. Ensuite, j'ai assisté au séminaire direction qui m'intéressait aussi par rapport au numérique et la gestion de la direction qui est quand même mon poste actuellement. Avec quand même, j'ai retrouvé la même envie en fait, et les mêmes idées de partage et de changer l'école en fait, de la faire évoluer dans le sens de ce qu'on disait là, de changer la façon d'enseigner, d'aller plus vers plus d'horizontalité comme tu disais. Et ça, c'était vraiment quelque chose de très intéressant.
D'accord, désolé, Jeff va recruter des gens pendant ce temps-là, pendant que dans une ambiance de folie, nous continuons.
Interlude musical.
Oui, on a un medley magnifique.
Moi, j'aimerais juste savoir comment tu présenterais Ludovia à des personnes qui ne connaissent pas.
Alors,
désolée.
Ou alors, si tu veux, on peut
commencer.
Non,
moi, je trouve que c'est un espace d'échange et de partage. Le fait aussi de rencontrer des gens que l'on connaît, entre guillemets, via Twitter ou autre, en vrai, d'échanger. Je trouve que ça, c'est le plus, en fait. Voilà, pouvoir faire cet échange en vrai.
Et par rapport, par exemple, à toi, donc, tu es arrivé, tu connaissais Ludovia comment ?
Parce que... Parce qu'il y en a certains qui ont insisté pour que je vienne.
D'accord, mais je pense qu'ils avaient de bonnes intentions. Convaincu ?
Ceux qui ont insisté ?
Non, non, est-ce que tu serais... Est-ce que tu es convaincu, hein, que...
Bien sûr, mais j'étais convaincu. Voilà. Je n'ai pas pu venir les autres années. C'est pour ça que ce n'est que mon premier, mais normalement, je devrais être au troisième.
Bon, ben d'accord. Très bien.
Un nouvel invité qui vient d'arriver, Christophe. Bonsoir. Déjà, je vais te dire, Christophe, te laisser te présenter.
Ouais, ok. Christophe Noulez, alors professeur de technologie au collège Louise-Michel à Clichy-sous-Bois. En parallèle, je vais être formateur d'Anne de l'Académie de Créteil. Et là, je viens ici en tant que fondateur et membre du bureau de l'association Tiers-Lieux Édu.
Donc la question elle est simple, hein. Tiers lieu édu, qu'est-ce que c'est, hein?
Alors bah, tiers lieu édu, c'est la naissance d'une association qui est pour pouvoir être dans tout ce qui va être les tiers lieux et surtout fédérer tous les tiers lieux qui parlent éducation. Et en fait on essaye de fédérer les tiers lieux, soit les tiers lieux dans l'éducation, au sein de l'éducation nationale, ou alors aussi les tiers-lieux hors éducation, comme l'éducation populaire ou d'autres types Fab Lab, tiers-lieux qui parlent éducation. Et puis bah, on essaye de fédérer tout ça autour de créer une communauté pour pouvoir documenter et créer des communs.
Alors déjà, qu'est-ce que c'est un tiers-lieu? Parce que c'est vrai que c'est un terme qu'on a trouvé très récemment, je trouve.
Alors bah, moi, j'ai souvent la définition du tiers-lieu qui est de pouvoir, c'est un lieu où on va administrer plus haut. Ah ouais, donc d'accord. C'est un lieu où on va administrer et concevoir un bien commun. Donc ça, c'est pas moi qui la sors, hein. C'est un sociologue qui s'appelle Antoine Buret. C'est un des seuls qui a fait une thèse sur les tiers-lieux et qui sort cette définition qui, pour moi, est assez simple, qui différencie le troisième lieu qu'on pourrait penser comme soit un bar ou alors une bibliothèque ou la place du marché. Là, un tiers-lieu, c'est là où on va et administrer avec plusieurs personnes, concevoir ensuite et ce qu'on va appeler un bien commun, c'est-à-dire un commun qu'on va pouvoir diffuser dans une communauté ou même au-delà de la communauté.
Et concrètement, alors, si je te dis concrètement, qu'est-ce qu'on y fait dans ces tiers-lieux?
Bah, concrètement, une des formes les plus connues des tiers-lieux, c'est par exemple les Fab Labs, où en fait on va pouvoir concevoir des objets avec différentes personnes. Et l'avantage de mettre un tiers-lieu dans l'éducation nationale, c'est qu'on va pouvoir ouvrir l'école. Et donc ouvrir l'école avec des associations, avec des partenaires extérieurs, comme dans mon Fab Lab par exemple, avec des retraités qui viennent. J'ai deux retraités qui viennent 2 heures par semaine et qui font de la formation, qui animent des ateliers et qui aident d'autres partenaires, par exemple des associations, à faire des projets. Et donc ensemble, ils vont administrer et concevoir un bien commun.
Et justement, si quelqu'un veut monter un tiers-lieu dans son établissement, comment fait-on?
Alors, nous, tiers-lieu édu, pas forcément, mais nous, tiers-lieu édu, on veut pas avoir de modèle.
Ouais.
On dit qu'il y a un ensemble de tiers-lieux qui sont multiples, avec de multiples concepts. Nous, ce qu'on veut surtout, c'est documenter ces concepts sur un forum. Donc, on a un forum qui s'appelle le forum.tierslieuedu.org et tout est documenté. On a 50 tiers-lieux à peu près qui sont documentés et où il y a un retour d'expérience, comment il a été fait. Et nous, à partir de là, on veut bien mettre en place peut-être des méthodes de pouvoir monter son tiers-lieu, mais en tout cas, on ne veut pas pousser un modèle de tiers-lieu. On veut juste, par contre, on est à vouloir pousser des outils. Là, on a, par exemple, on pousse Open Badge Factory, donc les Open Badges. Donc, on est dans les Open Badges. On a créé plus de 56 Open Badges, 57. Et en fait, ces Open Badges sont libres et possibilité d'utiliser dans les tiers-lieux. Et on pousse un logiciel de documentation qui s'appelle Doodoc, qui a été fait par l'Atelier des chercheurs. Et ce logiciel, on le met en ligne à partir de notre plateforme.
D'accord, un logiciel qui permet de
documenter un projet assez facilement parce qu'en fait, il permet et d'avoir tous les médias au même endroit, photos, vidéos, son, texte, et après pouvoir le mettre en page.
D'accord. Et sur Ludovia, alors qu'est-ce que vous proposiez sur Ludovia alors?
Alors sur Ludovia, on a fait 17 ateliers en mode documentation, collaboratif. Alors 17 ateliers avec des chercheurs comme Antoine Buret, des personnes des réseaux des tiers-lieux, mais des réseaux des tiers-lieux, des acteurs un peu plus de la sphère publique comme par exemple Thilos, Lamine, il y avait le RFF, donc il y avait les représentants du réseau Fab Lab français, et puis des membres du 110 bis avec nous qui a organisé ça, donc on a co-organisé avec eux. Et puis on a fait une expo, donc on avait une expo de cartes postales qui présentait 13 tiers-lieux avec toutes ces composantes différentes qu'il pouvait avoir.
Comment fait-on pour en savoir plus? Il y a des en ligne.
Alors le forum, venez au forum. Sinon on a le site tiers-lieu-edu.org qui ramène au forum et qui ramène à d'autres choses aussi, les open badges qui ramènent à Doodoc bientôt pour le logiciel de documentation. Et puis après vous pouvez adhérer si vous souhaitez et nous rejoindre dans l'association pour pouvoir participer aux prochains enjeux comme par exemple un des enjeux là prochain, c'est qu'on va faire venir 6 femmes managers africains en France pendant 10 jours et nous on va aller 6 jours au Bénin lors de Make Africa et donc faire un échange avec ces Fab Labs africains qui ressemblent beaucoup plus à un tiers-lieu qu'un Fab Lab et où cette notion de, d'utilisation du numérique au service de la pédagogie est très fort. Et donc c'est, oui, c'est un des acteurs qui aujourd'hui révolutionne le numérique dans l'éducation. Donc voilà, ça c'est nos prochains, ou alors nos prochains événements, ça va être des rencontres contributives qui vont être dans des académies. Donc on va faire une rencontre contributive à Montpellier, une rencontre contributive à Rennes, une rencontre contributive à Nancy sur les 3 prochains mois. Donc voilà, à chaque fois vous pourrez...
Je reviens un peu sur ton tiers-lieu dans ton établissement.
Ouais.
Ça fonctionne comment? C'est-à-dire, il est ouvert comment? Il est ouvert tout le temps? Les élèves viennent? Tu as dû parler des retraités? Comment ce grand mélange-là?
Alors, mon Fab Lab, moi, dans mon établissement, il est ouvert 8 heures par semaine. Donc lundi, mardi, mercredi. Et en fait, il est alors il y a un animateur, donc ce qu'on pourrait appeler presque la fonction aujourd'hui qu'on appelle de concierge. Donc on a un animateur qui a un assistant PEDA qu'on a transformé en assistant PEDA numérique. Et cette personne-là, 8 heures, est dans le Fab Lab, plus quelques heures pour s'occuper un peu de la maintenance des machines, parce qu'on est Fab Lab. Après, y a un maillage total entre ces deux personnes de la retraite qui viennent. Donc un ancien designer de chez Renault et un, alors l'autre, il est ancien électronicien de chez Dassault qui travaillait pour l'armée. Donc autant vous dire, la première fois qu'il est venu, il m'a dit « il y a une imprimante en panne ». Bon, pas de souci, je la prends 2 jours après à les réparer. Tout va bien, quoi. Donc lui, il est vraiment, les deux sont vraiment impressionnants. Et puis après, derrière, il y a souvent une quinzaine d'élèves qui viennent avec différents projets, soit personnels à eux, des projets où ils peuvent durer 2-3 semaines et après repartent. Moi, je suis très c'est un lieu éphémère en fait. Entre guillemets, pour eux, je veux pas qu'ils soient inscrits comme dans un club. Ils viennent, ils restent autant qu'ils veulent, ils repartent quand ils veulent. Et donc, soit ils s'inscrivent sur des projets purement personnels à eux, on les accompagne à le faire, soit du pair à pair ou soit avec nous ou avec les retraités. Ou bien ils font des projets qui sont amenés soit par des associations ou par des collectivités locales, soit ils viennent avec des projets que nous on leur a proposés.
Proposé aussi. Très bien, merci. C'est des choses que vous connaissiez autour de la table, le tiers-lieu, ouais.
Moi, ça fait partie des choses qui m'ont plu cette année à Ludovia parce que j'ai fait un atelier avec Christophe d'idéation sur les tiers-lieux. J'ai trouvé très intéressant en termes de réflexion et surtout aussi, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est aussi la confrontation de regards. Parce qu'on a travaillé sur l'idéation ensemble et on a discuté avec des gens qui ne sont pas forcément dans ta sphère de confort et en fait, on arrive à concevoir des choses collectives et je trouvais ça vraiment intéressant. Moi, en tout cas, si on m'avait demandé, ça a été mon premier Ludovia, mon coup de cœur, ça aurait été les ateliers idéation de...
Oh. Voilà. Non, tu voulais réagir, Frédéric?
Oui, les Fab Labs en tant qu'enseignant techno, je connaissais, les tiers-lieux également. Et au niveau du coup de cœur, il y a eu des réformes très récemment et j'ai été très impressionné par l'innovation et l'ingéniosité que j'ai vue, par exemple sur la programmation, où les programmes ont changé. Et, on voit que déjà toutes les communautés se sont mis à travailler dessus et on voit des choses en lycée sur la programmation Python, j'ai vu des choses très intéressantes, etc. Donc voilà, c'est l'évolution des communautés enseignantes. Ici, c'est un peu ça, quoi. C'est les échanges sur les évolutions et puis un peu sur l'avenir. Voilà.
Romain, j'avais envie de poser la même question avec un coup de cœur sur Ludovia.
Ah, c'est difficile parce que c'est vrai que on voit pas mal de choses et arriver à extraire un truc, j'ai un petit peu du mal. Et puis en plus, des fois, c'est il y a des outils qui ressortent. Alors, pas forcément un coup de cœur, mais moi là, c'est plutôt qu'est-ce que j'aimerais peut-être essayer de mettre en place dans ma classe. Et j'ai vu l'application que j'avais déjà un petit peu utilisée qui s'appelle WooClap. Et voilà, c'est un truc que j'aimerais bien essayer parce qu'en plus, c'est en lien avec.
Tu peux essayer.
Alors, comment?
C'est quoi? Elle fait quoi cette appli là?
WooClap, ouais. Qu'est-ce qu'elle fait? Ouais. Comment dire? Y a beaucoup de musique. Alors, je connais pas toutes les fonctionnalités, mais par exemple, ça permet tout ce qui est QCM, tout ce qui est une sorte d'exerciceur, un petit peu, pourrait dire. Et si tu veux, c'est en lien avec un atelier que j'avais vu de Grégory Michnik au CLIC sur tout ce qui était lié à la mémorisation, tu sais, la réactivation, notamment pour les élèves. Et donc voilà, c'est une petite piste moi qui m'intéresse, quoi. Entre autres, après voilà, les tiers-lieux, c'est vrai qu'on entend parler. Moi, j'avais échangé avec Patrick Saoula. Alors c'est pas les tiers-lieux, mais enfin le concept de la salle ouverte. Voilà, donc voilà, c'est des choses qui intéressent, mais toujours pareil, hein, c'est le problème du temps, quoi. Donc là, en essayant de digérer un peu, puis en prenant un peu de temps, ça fait partie des choses qui m'intéressent.
Merci. Merci en tout cas. Il y avait un autre invité qui voulait. Je sais pas, on a peut-être perdu. Du lab, justement. Je sais pas si tu peux en parler, un toucher un mot du lab ou non.
Ils vont arriver. Je pense qu'ils en parlent beaucoup mieux, beaucoup mieux que moi. Mais
ce
par contre,
qu'on entend parler.
Mais par contre, oui, eux, nous, plus ou moins, nous, on va dire une forme d'incubation où ils nous ont aidés cette année à pouvoir nous structurer, à pouvoir faire des rencontres contributives au Lab 110. Où nous, on en a fait trois. Donc, on en a fait un autour des Fab Labs, un autour des médiathèques. Alors, c'est vrai que médiathèques, tiers-lieux, c'est un enjeu aussi pour eux. Et c'est vrai que c'est sympa de voir qu'en final la question éducation dans les tiers-lieux en fait elle est centrale parce que aujourd'hui il y a des enjeux qui jouent beaucoup plus importants qui sont au-delà de l'éducation, comme par exemple aujourd'hui il y a un grand comité national des tiers-lieux, il y a des choses qui se passent dans la sphère politique, et c'est vrai que de remettre en place la question éducation plus que la question par exemple des start-up ou du coworking, et ben c'est de remettre en place une certaine dimension de qu'est-ce qu'un tiers-lieu, quoi.
D'accord. Et c'est qu'on n'a pas abordé trop ce sujet, mais le côté financier, justement, c'est les collectivités qui jouent le jeu, comment ça se passe, quoi ?
Comment pour monter un tiers-lieu ?
Ouais, c'est ça.
Ouais. Ouais, bah pour monter un tiers-lieu, je pense que c'est essayer de faire une multitude de. Moi, je prends le mien. Hein, moi, j'ai voulu voir les collectivités locales. J'ai vu Madane, j'ai vu la mairie, j'ai vu la communauté d'agglomération. Ouais. Et l'ensemble fait qu'on arrive à monter son tiers-lieu un peu, mais. Aujourd'hui, c'est encore plus un enjeu, c'est un réel enjeu un peu politique qui marche assez facilement, mais par contre, faire attention d'aller dans un valeur commune, quoi, dans des valeurs communes. C'est ça surtout qu'on veut nous dans Tiers-lieux, c'est avoir des valeurs communes plus qu'un lieu, un modèle. C'est plutôt de se dire voilà, on a des valeurs communes, la documentation, etc.
Très bien. Quelque chose à rajouter? je sais pas si on va pouvoir avoir le Lab 110 avant de conclure.
Il y a Léa, non ?
Amélie, je sais pas où elle est. Tellement d'invités ce soir que.
Ce sont les allées en direct.
Ouais. Léa arrive, ouais.
Ah, elle va remplacer. Vas-y.
Sur les tiers-lieux, ça s'adresse à quel public ? Parce que moi, quand tu me parles de tiers-lieux, à chaque fois, j'ai cette pensée que ça s'adresse surtout à un public du secondaire, voire de l'université.
Ben, en fait, d'où la dimension un peu, éducation qui change un petit peu la donne. C'est-à-dire que un tiers-lieu, c'est avant tout la mixité de public qui va concevoir un bien commun. Mais concevoir un bien commun avec des écoles telles que les écoles primaires et le collège, c'est un peu différent. Et là, on rentre aussi entre concevoir un bien commun, mais avec cette partie formation. Cette partie formation, initiation aux outils, cette partie de savoir-faire et de pouvoir être en capacité d'avoir des nouvelles postures et des nouvelles compétences. Et c'est vrai que c'est dans les tiers-lieux, moi, ce qui me plaît énormément, c'est qu'on n'est plus uniquement dans les savoir-faire et les savoir-être, mais on est aussi énormément dans les compétences informelles. La créativité, la collaboration.
Oui, les compétences du 21e siècle.
Voilà. Je ne vais pas vous les apprendre, mais par contre... Les tiers-lieux, c'est vraiment un excellent moyen de sortir un peu juste des Fab Labs, en fait. Moi, quand j'ai fait un Fab Lab et qu'on a monté la sauce, parce que l'année dernière, on a animé Fab 14 et du Rassemblement mondial des Fab Labs sur la partie éducation, on a dû monter une sauce pour organiser ça. Et quand on a voulu le nom de la sauce, on s'est dit, mais quelle valeur on veut ? Est-ce qu'on veut plus la valeur maker ou est-ce qu'on veut plus la valeur ouverture et collaboration vers l'extérieur ? Et en fait, c'est ça qui nous a le plus plu. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, au lieu de mettre Fab Lab Edu qu'on aurait pu faire, on a plutôt parlé tiers-lieu Edu. Et c'est vrai que c'est vers là qu'on veut aller plutôt, dans ces valeurs communes d'ouverture, de documentation, de commun, plus que l'esprit maker. Même si l'esprit maker, on vient de l'esprit maker, donc on revient dessus souvent, mais bon, voilà.
On va passer le micro à la nouvelle invitée qui vient d'arriver.
Pardon.
Bonjour.
Bonjour, qui es-tu ?
Alors moi je suis Léa et donc je travaille au 110 bis, le lab d'innovation du ministère de l'Éducation nationale, et Benjamin qui s'installe.
Voilà.
Et on travaille tous les deux donc au 110 bis.
Et quelle est la mission que recouvre le 110 bis ?
Alors, le 110 bis existe depuis un tout petit peu plus d'un an. Donc, on est tout nouveau. C'est notre premier Ludovia. On est super contents d'être là. Et donc notre mission, c'est de prouver que au sein de l'institution, c'est possible de trouver des voies alternatives et de faire autrement, de mener les projets autrement, d'ouvrir des zones de liberté en fait dans l'institution pour pouvoir tester des choses. Donc nous, on accompagne des enseignants dans leurs projets, et l'idée en fait, c'est de leur permettre pas seulement voilà, de les valoriser, mais de se développer, de se pérenniser. On réfléchit aussi beaucoup sur ce qu'on appelle la boring innovation, donc tout ce qu'il y a en dessous en fait, des belles histoires sur les projets super qui se passent dans toutes les académies. Et donc en tant que en étant à notre place donc, au sein de l'administration centrale, on se dit qu'un de nos rôles, c'est d'essayer de décortiquer tout ça et de réfléchir aussi au cadre RH, marché public, carrière, etc. Toutes ces choses-là qui sont le cadre en fait, nécessaire à l'innovation et qui sont importants en fait de réfléchir là-dessus pour pouvoir pérenniser un certain nombre d'initiatives qui existent aujourd'hui sur le terrain. Voilà.
D'accord. Je suis enseignant. Qu'est-ce que ça m'intéresse. Est-ce que je viens vous voir avec un projet? Est-ce que vous avez des projets déjà, je dirais pas clé en main, il y a quelqu'un qui va m'agresser là, si elle n'aime pas ça, mais est-ce que vous avez des exemples de choses qui ont déjà été produites ou est-ce que vous avez une procédure de base que vous pouvez nous confier?
Il y a deux questions. Donc sur la première, sur comment rentrer en collaboration avec nous, et entrer en dialogue avec nous, il y a deux choses. On essaye de trouver des interstices pour permettre à tout type d'acteurs de pouvoir nous rencontrer et discuter avec nous. C'est ça la posture d'ouverture. C'est pas dire tout le monde peut venir H24 et à tout moment pour nous voir. On a d'abord tous les mois, c'est tout bête, mais on a un temps d'ouverture du lab où on va présenter nos activités au grand public, dans sa diversité, des citoyens, des parents d'élèves, des syndicats, des enseignants, des gens d'académie, des entreprises, des associations. Donc ça, c'est la première chose. Ça n'engage pas à une collaboration.
Ouais, parce que vous avez un lieu, hein, c'est ça?
Oui, tout à fait. On occupe un espace de 350 m² à l'entrée du ministère au 110 rue de Grenelle. Donc on a pour habitude de dire bis, parce que finalement, le lab donne à la fois sur la rue, mais aussi les fenêtres donnent sur le cabinet du ministre. Donc on est vraiment un pas dedans et un pas dehors. Et ensuite, comment je suis professeur et je souhaite rentrer en dialogue avec nous? Donc déjà, il y a ce temps de présentation, si vous souhaitez comprendre ce qu'on fait, qui est accessible à tous, mais aussi on a développé un format, les office hours, on n'aime pas les anglicismes ici. La hotline, appelons ça comme on veut. Mais c'est pour dire tout agent de l'éducation nationale, donc les 1,3 million personnes qui travaillent à l'éducation nationale, vous voulez parler avec nous, vous avez une idée, un projet, n'importe quoi, il n'y a pas de jugement préalable, il n'y a pas d'évaluation de dossier, vous nous envoyez un mail et nous, tous les mercredis de 14 à 16 heures, ils sont banalisés pour ça et donc il y a un temps de dialogue possible en physique ou en distanciel, quoi, au téléphone où vous venez et n'importe qui, n'importe quoi de l'éducation nationale. Vraiment, on veut pouvoir créer cette courroie directe de discussion parce que sinon on passe à côté de plein de choses et pour nous c'est des moments aussi où on apprend la vie parce que en fait je suis pas prof en Ariège, je suis pas prof dans un collège à Clichy-sous-Bois, je suis pas enseignant en Normandie, donc je connais pas ces réalités et c'est un besoin impératif pour nous de mieux comprendre ce qui se passe sur le terrain au quotidien. Après des projets en kit certainement pas. Par contre, est-ce qu'on amorce des projets sur lesquels on demande des contributions, notamment d'enseignants? Oui, c'est le cas. Je pense à un projet qui est accompagné par le 110 bis et notamment par Léa qui vise à travailler sur l'empathie. Elle vous l'expliquera mieux que moi. Lorsqu'on travaille à accompagner une porteuse de projet qui travaille sur le dialogue entre les parents d'élèves qui sont allophones ou illettrés et le milieu scolaire, on a besoin de discuter avec des profs, donc on fait des appels et là on demande à des profs intéressés. Pardon ?
Pas que pour les projets accompagnés.
Oui, et d'ailleurs c'est pas que pour les projets accompagnés. En fait, c'est on essaye de créer des démarches contributives justement par notre posture de, on a des temps de dialogue avec tout le monde et notre volonté de fédérer des communautés, non pas d'en être les leaders, d'être modélisant, mais simplement de dire on peut dialoguer ensemble. La réciprocité qu'on attend, c'est d'être en capacité de pouvoir mobiliser des profs pour contribuer à des projets d'autres enseignants aussi.
Est-ce qu'on peut avoir un exemple?
Ouais.
C'est compliqué
ouais.
de sortir un exemple, je sais, mais
ça, non, mais pas, ça serait par plus exemple, parlant. Là, ouais.
Là, je parlais de Communico. C'est une prof dans un lycée à Gonesse, c'est une prof de SES. Son sujet, c'est qu'il y a pas mal d'élèves, c'est de dire mes élèves dont les parents sont allophones, soit c'est leurs grands frères qui viennent, soit c'est des élèves qu'on avait il y a 2 ans, donc voilà, soit ils font la traduction auprès des parents et ça les saoule, et puis au bout d'un moment, ils traduisent plus les bonnes choses, soit les parents ne viennent plus, et ça, c'est un facteur d'échec supplémentaire pour les élèves. Comment on attaque ça? Et elle a commencé à travailler sur un lexique iconographique pour traduire les bulletins scolaires. Et du coup, nous, on a commencé
hyper
à travailler.
Hyper intéressant.
Voilà. C'est un exemple peut-être. Léa, tu veux parler du projet avec Patrice Renaud?
Oui.
Oui, c'est Benjamin qui est très maladroit. Oui, un autre projet donc, que Benjamin demandait d'évoquer en termes d'exemples concrets de ce qu'on accompagne, c'est un projet qu'on a en partenariat avec l'Académie de Dijon. Et c'est une expérimentation pour le moment. Tout ce qu'on accompagne, on commence vraiment très petit, on est dans une approche incrémentale. On voit déjà si c'est un vrai problème sur le terrain. Parce que peut-être pas en fait, et après on fait un prototype pour voir si oui ou non ça répond aux besoins des acteurs sur le terrain. Donc là le projet, ça vise à créer des scénarios de réalité virtuelle immersive pour sensibiliser et pas former, la différence est importante, les enseignants aux troubles invisibles. Donc là on a commencé avec la dyslexie, parce qu'il fallait commencer par quelque chose, mais donc du coup c'est surtout centré sur les 10, et donc là on travaille avec un collectif de chercheurs, l'Académie de Dijon, des enseignants, des AVS, des inspecteurs, sur la création de ces scénarios de réalité virtuelle immersive. Et en fait l'idée, c'est de travailler sur l'empathie en fait, des enseignants, de se mettre vraiment dans la peau et dans les scénarios qu'on a créés là pour le moment. On a commencé en mars le projet. Hein, donc on a déjà trois films là qu'on a commencé à tester sur une trentaine d'enseignants, et on espère pouvoir trouver des financements pour continuer à la rentrée. Mais l'idée, c'est de vivre des situations de classe et hors classe. On a aussi filmé dans les couloirs, dans le CDI, etc. Parce que la réalité d'un élève dans la classe, c'est pas que quand il est en classe. Il y a des situations qui échappent aussi aux adultes présents dans le temps scolaire.
Donc en fait, vous faites le lien avec... quand on vient vous chercher sur un projet comme ça, vous faites le lien, vous cherchez la recherche, vous cherchez le financement, vous cherchez
des
développeurs,
aussi.
Je sais pas, parce que c'est en parle de réalité virtuelle.
On accompagne aussi sur... Enfin, en fait, on a trois façons d'accompagner les projets. C'est... les projets qu'on va accompagner au long cours, donc là le but c'est vraiment d'arriver à un prototype, de le tester en réalité et après de le transférer, et ça c'est pas une mince affaire, de le retransférer après dans le système pour faire en sorte que ce qu'on essaye de développer ça soit pas juste une prothèse comme ça à côté où ça vit dans sa bulle, mais que ça fasse vraiment greffe avec le reste du système. On a en étant dans le ministère aussi, on a une grosse partie... accompagnement du changement, quoi. Enfin, on travaille avec l'ensemble des directions, et dans les méthodes de tout ce qu'on organise comme atelier au sein du ministère, je pense que voilà, ça c'est aussi une de nos grosses missions. C'est aussi une de nos grosses missions de déciloter, de faire rentrer l'ensemble des acteurs parties prenantes, d'enlever les casquettes des gens. Des fois, c'est compliqué, en fait, de mettre tout le monde autour de la table et de dire, là, sur ce projet, t'es pas inspecteur, t'es pas chef d'établissement, mais en quoi tu peux contribuer? C'est pas à ta casquette, on s'en fiche. C'est en quoi tu peux contribuer au projet? Et donc, en fait, c'est aussi sur les méthodes, la culturation. On a aussi une programmation régulière, par exemple, le Midi des Makers.
Oui, on a un son de cloche. Maintenant. Vas-y, ça t'a coupé.
On a une programmation aussi permanente, par exemple le Midi des Makers, où on ouvre en fait à tous les agents qui peuvent venir mettre les mains en gros dans la robotique, l'IA, voilà, on a fait un truc de stop motion, on a fait un truc avec les MakerBot, je sais plus, mais on a un certain nombre d'ateliers qui durent sur le temps de midi. Les agents, ils viennent, ils mettent une chose plus concrète sur des choses qu'ils ont entendues par ailleurs. Et en fait, tous ces moments-là, c'est à chaque fois une opportunité d'ouvrir des débats sur, bah, en fait, oui, le monde change. Et en fait, ça, c'est un vrai impact sur les façons d'apprendre en classe et sur nouvelles compétences, enfin, ce que Christophe disait tout à l'heure, quoi.
Donc, le changement, c'est maintenant.
C'est des... Autour de la table, là, je l'absentiste, vous avez entendu parler ?
Oui.
Moi, j'étais
venu... Vas-y, prends le micro, ouais.
J'étais venu cette année sur invitation de Edu Voices pour assister à un atelier autour de Survive on Mars. Et c'était vraiment intéressant. Et pareil, c'est toujours sur l'idée de rencontrer d'autres personnes que celles qu'on a l'habitude de voir. Moi, c'est peut-être ce qui m'intéresse, ce que j'ai compris, c'est l'idée de sortir de sa zone de confort. Moi, c'est ça que je retiens de votre approche, en fait.
Oui, bah par exemple là ce que tu évoques avec Edu Voices, c'est un format en fait qu'on a créé suite au rendez-vous qu'on a les mercredis après-midi avec les profs au téléphone, où en fait grâce à ça on a détecté un certain nombre de signaux faibles, où en fait le truc c'était de dire bah il y a plein de choses qui existent dans l'institution pour détecter des projets innovants, les valoriser, etc. Mais après bah, so what, quoi. Donc, nous, en fait, on a fait ce format, donc en partenariat avec Edu Voices, où l'idée, c'est d'essayer de prendre bah, tous ces projets qui ont l'air super quand on les entend en pitch, par exemple, à Ludovia, etc., et de se dire, mais comment t'as fait, en fait, pour faire Survive on Mars ? Enfin, comment c'est arrivé ? Comment tu t'es organisé ? Est-ce qu'il y a une gouvernance ? Comment tu trouves tes profs ? Comment tu trouves tes compétences ? Comment tu fais que le truc, il se maintient ? Comment tu évalues les compétences ? Est-ce que t'arrives à savoir l'impact que ça a, etc. ? Et toi, le temps que tu passes dessus, mais comment est-ce que c'est valorisé ?
D'accord, c'est là que vous intervenez, quoi.
Et en fait, nous, l'idée, c'est de poser toutes ces questions-là, mais des choses très, très concrètes. Et en fait, une fois qu'on a décortiqué ça, et c'est en cours, quoi, le travail sera très long et on pourra vraiment pas le faire tout seul. L'idée, c'est de se dire, peut-être que il y a certains chantiers à ouvrir de fond avec la direction des ressources humaines les conditions dans lesquelles les enseignants en fait font pas que enseigner dans une carrière, parce qu'aujourd'hui voilà, on voit très bien que la plupart des gens vont avoir au moins 7 métiers dans leur vie, alors pourquoi un enseignant ferait exactement que chose. Enseigner face à sa classe pendant toute sa carrière ?
On est convaincus.
Donc en fait, ça, et aujourd'hui, comment on y réfléchit ensemble ? Comment on le prend en compte ? Dans quelle mesure il faut le prendre en compte ? Comment on le facilite ? Voilà. Et derrière, en fait, il y a des choses très terre à terre sur lesquelles. On essaye de travailler donc en relation très avec les enseignants.
Donc si on veut vous contacter, comment on fait ?
110bis@education.gouv.fr ou Twitter.
Voilà. Super. Merci. Merci à tous. En tout cas, on va peut-être conclure. Je vois que ça fait une heure d'émission. Merci à tous. Bonne fin de Ludovia à tous. Je crois qu'il y a des animations qui sont en train de se mettre en place.
Ça va, on en a entendu une bonne partie, Jeff. Oui, merci à tous les invités, merci à ceux qui ont pris le temps de venir nous dire un petit mot, un long mot. Voilà. Merci Séverine. Le petit mot de la fin.
C'est la pression là.
Non, c'est forcément moi. Il y avait moins de cœur dans les yeux, mais je trouve beaucoup de partage. Voilà, donc je suis contente. D'avoir été ramassé hier, vraiment, c'était une belle expérience et des belles rencontres aussi. Les belles rencontres, c'est Ludovia, mais c'est surtout maintenant, évidemment. Non, mais merci pour la proposition, c'était rigolo.
À se refaire ça. Au revoir.